chrétien, on parle souvent de la gloire de Dieu. En fait, ce soir, on a lu quelques textes qui a parlé de la gloire de Dieu. On a chanté des cantiques qui a parlé de la gloire de Dieu. La Bible est remplie des versets qui parlent de la gloire de Dieu. En fait, le psaume 19 nous dit que le ciel et la terre proclament la gloire de Dieu. Ésaïe, chapitre 6, nous dit que la terre est remplie de la gloire de Dieu. Plusieurs autres versets de la Bible nous rappellent que Dieu a créé l'univers pour sa gloire. Dieu a déclaré que sa création était bonne. Et parce que la création est une réflexion de sa bonté, c'est aussi une réflexion de sa gloire. La gloire de Dieu est la manifestation de cette gloire dont la création constitue un thème, comme j'ai dit, très très important dans la Bible. Cette gloire représente la magnificence de Dieu. La gloire se voit dans les manifestations visibles de la puissance, de la splendeur, de la bienveillance de Dieu. Mais tout ce bavardage à propos de la gloire de Dieu peut nous sembler un peu présomptueux, n'est-ce pas? Regardez le monde. Où se trouve la gloire de Dieu dans ce monde? Aujourd'hui, le 13 novembre, c'est l'anniversaire de l'attaque à Paris qui a laissé 130 personnes mortes et plus que 300 blessés. Et depuis l'année dernière, la France a vu plusieurs autres attaques faites au nom d'un faux Dieu et à l'encontre de sa gloire, à la gloire de Dieu. Nous sommes presque habitués maintenant. Mais au milieu de cette violence, où se trouve la gloire de Dieu? On a l'impression que l'homme détourne la volonté morale de Dieu vers ses propres desseins et qu'il cache la gloire derrière le péché. Et même quand on parle de la gloire, ça n'a rien à voir avec Dieu. On parle de la gloire de la patrie, on parle de la gloire de l'équipe nationale. J'ai lu un article dans la Figaro récemment qui parlait de la gloire du cognac. Si la terre est censée être remplie de la gloire de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le terrorisme, les guerres, la dégradation de l'environnement, les hommes politiques corrompus, l'avortement et d'autres manifestations de l'humiliation de la création prennent la place de la gloire. Mais malgré tout, la Bible nous promet que Dieu va restaurer sa gloire dans la création. Et plus que ça, la Bible nous montre comment reconnaître la gloire de Dieu dans un monde déchu. Donc ce soir, je vous propose qu'on étudie le psaume 24. Vous pouvez tourner dans votre Bible, psaume 24, et je vais inviter ma fille Lénora à venir devant pour lire ce texte pour nous.
Psaume 24. À l'Éternel la terre et ceux qui la remplissent, le monde et ceux qui l'habitent. Car c'est lui qui l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme aux choses vaines et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le recherchent, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel le fort et le héros, l'Éternel le héros de la guerre. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire.
Merci. Merci, Lénora. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds. Je prie, Seigneur, afin que tu nous guides ce soir dans cette étude de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce texte et de mettre en pratique cette parole pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Le psaume 24 aurait été chanté pour commémorer l'entrée de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, ce qui est raconté en 2 Samuel chapitre 6. C'est le roi David qui était là présent à cette époque-là pour cet événement, l'entrée de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Il aurait été chanté en souvenir du jour où le symbole de la promesse de Dieu à son peuple est entré dans la ville sainte de Jérusalem, la ville principale d'Israël, la ville où se trouvait le temple qui a été construit quelques années après par Salomon, la ville où se trouvait la présence de Dieu parmi son peuple. Cet événement de l'accueil de l'arche était un moment de célébration et de victoire pour le peuple de Dieu. Mais ce psaume de David n'a pas été chanté en l'honneur du roi David et de ses exploits. En fait, il a été chanté à la gloire de Dieu, le Créateur qui remplit la terre de sa gloire. Mais encore une fois, on va poser la question ce soir, où se trouve cette gloire, la gloire de Dieu? Alors en premier, ce texte nous fait contempler la gloire de Dieu dans la création. Une création, ça implique un créateur. Et la gloire de Dieu se manifeste dans la création qui est à Dieu. Ce n'est pas la création qui est glorifiée dans les versets 1 et 2, mais le créateur qui reçoit la gloire. Le langage du verset 2 nous fait penser à la construction d'un bâtiment. Dieu a bâti quelque chose de solide sur une fondation. Le verset 2 nous dit qu'il a fondé le monde sur les mers, ce qui est un peu bizarre comme expression, mais il faut comprendre que dans le monde antique aussi, la mer représentait le chaos, le désordre. Mais ici, Dieu met de l'ordre dans le désordre. Il construit quelque chose. Il façonne le monde comme un ouvrier qui construit un bâtiment. C'est comme si Dieu construit l'univers en tant que temple à sa gloire. Et donc, selon le psalmiste, si on cherche aujourd'hui la gloire de Dieu, il suffit de regarder les étoiles, les vastes océans, les montagnes, les forêts, les champs. La création proclame la gloire de Dieu. Par contre, c'est quand les êtres humains cherchent la gloire pour eux-mêmes, que la gloire de Dieu nous échappe. Quand l'homme revendique la gloire de Dieu comme s'il était lui-même l'homme, le maître, cette gloire authentique est ainsi dissimulée. Ça fait partie de notre nature pécheresse de donner gloire à la création au lieu du Créateur. Tout acte de rébellion, de péché, de violence commis par l'homme est un rejet de la gloire de Dieu. Chaque péché commis par l'homme est une tentative de se mettre à la place de Dieu, de dérober sa gloire, comme nous le rappelle la fin de Romains chapitre 1. Imaginez un athlète qui remporte une course. Il gagne une victoire extraordinaire. Il n'y a personne qui s'approche même de son niveau, de sa compétence. Il écrase tous les records. Et beaucoup de gens sont témoins de cette victoire. Mais quand le moment arrive de recevoir sa médaille, de recevoir la coupe, de recevoir la gloire qui lui est due, quand son nom est appelé, c'est une autre personne, un imposteur, une fraude, qui se fraye en chemin dans la foule, qui s'avance, qui prend place sur le podium. Cet imposteur prend la coupe dans ses mains, il fait un petit discours de remerciement, il soulève le trophée au-dessus de sa tête. Imaginez ça. Mais est-ce qu'il peut s'en tirer avec une telle tromperie, finalement? Est-ce que la tromperie de cet imposteur change le fait que la gloire appartient toujours au champion? En fait, non. Le vainqueur est toujours le vainqueur. Et la gloire ne peut pas lui être retirée, finalement. De même, la tromperie de l'homme par rapport à la gloire sera exposée. L'homme sera dénué de sa gloire prétendue et Dieu sera exalté. C'est exactement ça que nous lisons dans Apocalypse chapitre 4, qui dit « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Les êtres humains ne peuvent pas prétendre à la gloire qui appartient à Dieu. Il faut reconnaître à qui la gloire appartient. Et dans les versets 1 et 2, ouvre la voie à ce qui vient après dans ce texte, dans le psaume 24. La création nous montre la gloire de Dieu, mais maintenant, il faut toujours poser la question, comment s'approcher à la gloire de Dieu? Comment s'approcher à la gloire de Dieu? Comment monter sur la montagne sainte, comme nous dit ce texte? Qui peut entrer dans la présence de ce Dieu glorieux? Les versets 3 à 6 nous expliquent comment. C'est en s'humiliant devant Dieu. Il faut comprendre la métaphore de ces versets. La montagne de Dieu, le lieu saint, faisait référence historiquement à Sion, à Jérusalem. Ça fait référence à l'endroit où Dieu se manifestait devant les prêtres lors des sacrifices. Cela signifie tout simplement l'endroit où se trouve Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il se trouve là? Qui se trouve là? Comment rechercher Dieu? Comme nous le demande le verset 6. Dieu n'habite pas sur une montagne sainte, littéralement. Il n'habite pas dans un temple mystique, dans les nuages, dans les montagnes. Quand Jésus a parlé avec la Samaritaine en Jean chapitre 4, il a corrigé cette théologie simpliste. Elle a pensé, oui, pour les Samaritains, on loue le Seigneur sur une montagne. Pour les Juifs, c'est à Jérusalem. Mais Jésus a corrigé cette théologie. Ce n'est pas comme si Dieu jouait à cache-cache ou comme s'il se cachait derrière le canapé ou sous le lit en attendant que nous le trouvions comme les enfants le font quand ils jouent. Ce n'est pas du tout ça. Dieu est esprit. Il est invisible. On ne peut pas trouver Dieu et le voir comme ça. Mais comment rechercher Dieu? Beaucoup de gens dans beaucoup de religions se posent cette question aussi. Et beaucoup de gens cherchent Dieu en faisant des tâches dont ils s'imaginent qu'elles plairont à Dieu. Beaucoup de gens cherchent Dieu littéralement dans des endroits saints, en participant à des pèlerinages. Selon l'Association du tourisme mondial, les sites religieux reçoivent la visite de plus que 300 millions de pèlerins chaque année. Chaque année, des millions de pèlerins catholiques, musulmans, hindous, bouddhistes et d'autres traversent de grandes distances pour chercher leur Dieu et pour atteindre l'éveil spirituel. L'année dernière, par exemple, 10 millions d'hindous se sont baignés dans la rivière polluée de Gange à la recherche de la pureté. 10 millions de musulmans ont visité l'Abarin Karbala en Irak. Je ne connais pas cet endroit, mais 10 millions de musulmans ont visité ce site. 8 millions de catholiques ont visité Lourdes l'année dernière. 3 millions de musulmans ont fait le Hajj à la Mecque l'année dernière. 2 millions de juifs ont visité Jérusalem pour prier devant le mur des Lamentations. La liste est longue. Je me demande si ces gens ont vraiment trouvé Dieu dans ces endroits. Ce texte nous dit que la recherche de Dieu commence par la renonciation de soi. La recherche de Dieu commence par les mains innocentes et le cœur pur. En Matthieu chapitre 5, dans le serment sur la montagne, Jésus dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Ils trouveront Dieu. Mais Jésus nous dit aussi que cette pureté de cœur ne vient pas de notre propre capacité, de notre propre effort. La pureté du cœur et la transformation spirituelle qui vient avec, c'est un don de Dieu par sa grâce. La bénédiction de Dieu, qui est le salut, ne nous appartient que par le moyen de la repentance, de notre idolâtrie, par le moyen de la foi en Dieu et de son Christ. Reconnaître et voir la gloire de Dieu dans ce monde, ça implique la repentance, ça implique la foi. C'est seulement comme ça que nous serons prêts à accueillir la gloire de Dieu et à conduire les autres vers cette gloire. Il faut prendre un moment, en fait, de méditer sur cette œuvre de Dieu. C'est très important. En fait, à la fin de verset 6, on voit dans notre Bible le mot « pause » ou « selah ». C'est sûr que vous avez remarqué ce mot, juste après le verset 6. « Pause » ou « selah » en hébreu. À l'époque, ce psaume aurait été chanté, et donc la pause indique un genre d'interlude entre deux parties chantées, un temps de réflexion. Alors, il y a deux théories concernant ce mot « selah » en hébreu. La première possibilité, selon mes recherches personnelles, c'est que le mot « selah » indiquait un solo de guitare électrique. C'est mon avis. Mais selon la deuxième possibilité, selon tous les spécialistes en hébreu, tous les grands commentaires et pratiquement tout le monde, le mot « selah » indique une pause, une période de réflexion et d'exaltation avant de continuer le chant. Selon cette théorie-là, qui est probablement la bonne, le psalmiste veut nous faire réfléchir sur l'importance de ce qu'il vient de dire, sur le salut. Il nous prépare pour la suite, les versets 7 à 10. Et selon la suite, si la gloire de Dieu se manifeste dans sa création, dans son salut, notre réponse à la gloire devrait être l'accueil de Dieu dans notre vie, dans notre Église. Notre réponse devrait être l'accueil de sa gloire. Et cet accueil devrait être un accueil enthousiaste et joyeux. Cet accueil vient après que Dieu nous donne sa grâce. Et donc, de notre part, il faut que nous ouvrions grand les portes à la gloire de Dieu. Regardez le langage de ces versets. Le roi est là, il est présent, il entre victorieux dans la ville sainte. Notre réponse devrait être adaptée à l'occasion. Pensez à votre réaction quand quelqu'un frappe à la porte de votre maison. Quand quelqu'un frappe à la porte, notre enthousiasme pour lui ouvrir dépend de qui se trouve de l'autre côté, n'est-ce pas? Si c'est un vendeur de trucs et de machins, la réponse sera « non merci ». On hésite à ouvrir la porte dans cette situation. Si c'est un témoin de Jéhovah avec son faux évangile, la réponse sera « non merci ». On hésite à ouvrir la porte. Si c'est un voisin énervé à cause des bruits qui émanent de notre appartement, la réponse sera de se cacher et de prétendre qu'on n'est pas à la maison, n'est-ce pas? C'est ce que je fais. Si vous êtes un enfant, par exemple, aussi, qui a fait une grosse bêtise et que vous vous cachez dans votre chambre en espérant échapper à une punition, la réponse de votre papa ou de votre maman à la porte n'est pas quelque chose que vous attendez avec enthousiasme, n'est-ce pas? Notre réponse dépend des circonstances. Mais quand c'est un bon ami à la porte, quand c'est un membre de la famille qu'on aime, quand c'est le livreur de pizza, c'est là qu'on ouvre tout grand les portes avec enthousiasme, n'est-ce pas? C'est normal. Le fait d'ouvrir une porte, ça implique une action intentionnelle. C'est une action d'accueil faite exprès. Et surtout, surtout pour les villes du monde antique, les villes comme Jérusalem, ouvrir une grande porte de la ville, c'était également une grande démarche qui impliquait la présence de plusieurs personnes. Le pont-levis doit être baissé, la herse doit être relevée, les gros portails en bois doivent être poussés vers les côtés. C'était une immense activité qui impliquait la présence de dizaines d'ouvriers, chacun avec sa propre responsabilité. Ouvrir la porte et préparer le chemin pour le roi, pour son entourage, ce n'était pas une mince affaire. Un accueil comme ça ne peut pas être fait d'une manière passive. Quand la trompette sonne, en annonçant la venue du roi, il faut bouger, n'est-ce pas? Il faut se mobiliser. Je vous pose la question. Est-ce que vous vous réjouissez à l'idée d'accueillir le roi de gloire? La gloire de Dieu est très importante. Pour citer Metallica, nothing else matters. C'est très important. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir chaque jour le roi de gloire à nouveau dans notre vie et à ouvrir grand les portes de notre cœur afin de recevoir le Seigneur par la prière, par la lecture de sa parole, par une attitude qui reflète sa gloire? Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Si le Seigneur est à la porte, quelle sera notre réaction? Je vous pose la question. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir le Dieu glorieux comme Seigneur de notre vie? Est-ce qu'on est prêt à vivre dans cette gloire tous les jours de notre vie? Ou est-ce que nous recherchons notre propre gloire? Est-ce que nous recherchons la fausse gloire qui remplit la terre de violence et de rébellion contre Dieu? En tant que chrétien, Dieu nous appelle à participer à sa gloire. Dans ce monde rempli de violence et de péché, Dieu nous appelle à accueillir sa gloire. Dans ce monde où les gens cherchent la fausse gloire de soi, notre roi nous appelle à l'accueillir sa gloire. Dieu nous demande de contribuer au fait de remplir la terre de sa gloire. Et l'Église joue un rôle très important. Les chrétiens forment une communauté d'individus qui comprend son besoin de Dieu. Les chrétiens forment une communauté qui comprend que la gloire ne vient pas de l'homme et n'existe pas pour l'homme. Les chrétiens sont ceux qui comprennent que la recherche de la gloire commence par l'humilité devant le Créateur du monde. La terre est censée être remplie de la gloire de Dieu. Et Dieu a choisi son Église comme moyen de s'aimer la gloire de Dieu dans ce monde. C'est très important ça. L'Église peut accueillir la gloire de Dieu en s'aimant abondamment l'Évangile. En répondant au désespoir du monde par l'annonce de la bonne nouvelle, par l'accompagnement de ceux qui marchent dans le découragement. Dans un sens, l'Église est chargée de la tâche qui consiste à ouvrir grand les portes à la gloire de Dieu et à participer par son culte, par son service à la gloire de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, le Seigneur, le Roi, nous sommes appelés à faire briller la lumière. Nous sommes appelés à faire briller la lumière de la gloire de Dieu dans ce monde déchu. Quelle sera notre réponse donc à la gloire de Dieu? Éphésiens chapitre 3, verset 21 dit « À Dieu la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Est-ce qu'on est prêt à recevoir et à transmettre cette gloire? Je vous invite à la prière. Seigneur, Seigneur de gloire, Nous te remercions car tu nous permets de participer à ta gloire. Nous te remercions de ce que nous sommes sauvés par la mort, par la résurrection glorieuse de Christ. Seigneur, aide-nous à répandre ta gloire dans le monde, de s'aimer généreusement l'espérance de l'Évangile. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen.